Et bonjour Daniel Pénac.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous aussi, vous aimez lire à voix haute. Vous avez d'ailleurs apporté quelques livres à partager.
Je vous ai apporté de la lecture.
Si on continuait avec vous...
Elle est belle,
vous,
la traduction de Medal.
Elle est belle, celle que je viens de lire, là.
Oui, je suis dedans, dans le Paul Auster, qui est en effet un raconteur d'histoire.
Ouais.
Et la traduction de Medal est formidable.
Tradition orale, dit-il, lui. Hein, tradition orale du récit. Donc c'est peut-être aussi que sa langue est une langue musicale, une langue qui est faite pour dire à voix haute, par exemple. Vous avez sous les yeux un texte, Daniel Pénac ?
Ah, comme de Brut de décoffrage.
Eh bien, Brut de décoffrage, je ne sais pas, je vais vous voir
bon,
le regarder.
C'était, ce texte est intitulé « La pension littéraire ». Je vous le lis sans vous dire de qui c'est. C'est bien ça, ça vous rira la matinée. « La pension littéraire » est assez grande et biscornue pour loger tous ceux qui ont envie d'y vivre, n'est-ce pas ? Elle dispose de recoins sombres, de vastes galeries, de salons bourgeois, d'ateliers de peintres, de caves becquétiennes et de greniers gracquiens. Et les cloisons n'y sont que des idées de cloisons. On peut y habiter seul ou en communauté, garder fenêtres ouvertes ou volets clos. On peut avoir des idées précises, voire des théories structurées sur la façon dont il est souhaitable que la maison soit habitée et entretenue, ou refuser de lire le règlement de copropriété. On peut vouloir la transformer en temple, en phare, en maison du peuple ou en club privé, bien que la porte d'entrée n'ait pas de serrure, en péage de douane ou en cabane de berger, en bibliothèque centrale ou en laboratoire. Il arrive que le tagueur de l'entresol se castagne avec l'oulipien du troisième, lequel a des envies de pendre le poète lyrique, selon lui indûment logé à l'étage noble, avec les tripes de l'auteur de best-seller, que tout le monde déteste, mais qui paie les notes de chauffage. Malgré cela, une même certitude habite tous les pensionnaires, celle que ni la municipalité, ni le syndic, ni le marché, ni la police des mœurs, ni l'archevêque, le rabbin ou l'imam, ni la pédagogie nationale, ni le grand conseil des familles n'y ont le moindre droit de remontrance, suggestion, autorisation, sanction, admonestation, encouragement, consultation, juridiction. La pension est un territoire libéré, le seul à vrai dire de toute la cité. Ses portes sont ouvertes à tous et à tous les vents. On ne peut lui reprocher d'être un lieu de désordre, puisque c'est sa raison d'être.
D'où vient ce texte, alors ?
Jean-Marie Laclaftine.
Votre ami, ancien...
C'est magnifique. je le lis. Voilà un texte que je lis très souvent pour mettre les pendules à l'heure, dès le départ de toute conversation littéraire avec qui que ce soit.
Ah, ça tombe bien, 7h14 du matin, quelle que soit l'heure, quel que soit l'endroit, on a mis les pendules à l'heure. Daniel Pénac, il faut quand même dire, je ne rappelle quand même pas que vous êtes écrivain, ça tout le monde le sait, je pense. Mais il faut quand même dire que c'est donc la deuxième édition de la Nuit de la Lecture, aujourd'hui sur tout le territoire français, et que vous en êtes le parrain. À cette occasion, les bibliothèques, les librairies ouvriront leurs portes à la nuit tombée. Une foultitude d'événements sont organisés avec des lectures notamment et des lectures à voix haute. On le sait, vous éprouvez un grand plaisir à lire à voix haute. Mais vous nous disiez dans Comme un roman, votre essai sur la lecture paru il y a 25 ans, que c'était plus qu'un plaisir, ou autre chose aussi qu'un plaisir, c'était même un droit imprescriptible du lecteur. C'est le 9e droit. Vous diriez toujours la même chose aujourd'hui, vous l'affirmeriez avec
oui,
le même point sur la table.
Et dans mon cas, c'était plus qu'un droit, c'était une nécessité, puisque j'étais prof, donc pendant une trentaine d'années, que j'avais affaire à des élèves en grande difficulté scolaire, qui croyaient ne pas aimer lire, et qui l'affirmait orgueilleusement. Moi, monsieur, je n'aime pas lire. Il croyait ne pas aimer lire. Et pour les réconcilier avec la lecture silencieuse et solitaire, il m'a fallu transiter par la lecture à voix haute. Parce que quand un élève vous dit qu'il n'aime pas lire, il ne sait évidemment pas ce qu'il dit. Si vous le croyez, il est foutu, et vous aussi, comme professeur. Donc, j'ai transité dans cet enseignement, par des heures de lecture à voix haute, une heure par semaine et par classe à peu près, où je lisais des textes, je racontais des romans, jusqu'à ce que les élèves puissent retrouver une tranquillité suffisante pour prendre tranquillement un livre, le lire, un roman, sachant qu'ils ne seront pas interrogés derrière, que ce n'est pas un piège. Et j'ai vu les fruits portés par cette méthode de lecture à voix haute, ça marchait, si je puis dire.
Est-ce que vous leur donniez aussi à lire à eux à voix haute ?
Bien sûr. Par exemple, il m'arrivait, mettons, je dis n'importe quoi, je lisais Le Vicomte pour Fendu de Calvino. Très bien. Alors, pendant l'heure, j'en lisais la moitié. Et évidemment, ils étaient frustrés parce qu'ils ne connaissaient pas la fin. À partir de ce moment, il y en avait toujours un pour me faucher le livre et le finir de son côté. C'est-à-dire se remettre à la lecture silencieuse et solitaire sans s'en apercevoir vraiment. Lui, ce qu'il croyait, c'était intéressant. Ce qu'il croyait, c'est qu'il allait achever le récit. Et ce que je savais, moi, c'est qu'il retournait à la lecture silencieuse et solitaire. Et comme je faisais ça systématiquement à chaque fois, un très grand nombre de livres circulaient dans la classe qui étaient échangés les uns avec les autres. Et ça donnait des phrases rigolotes. Un jour, dans le couloir, j'approche de ma classe et j'entends cette phrase oulipienne. Une gamine qui dit à un garçon, elle lui dit « Passe-moi ton gros câlin, je te file mon Timon d'Athènes ». Elle avait lu Timon d'Athènes. J'avais commencé le Timon d'Athènes, qui l'avait absolument passionné. Elle l'avait fini. Un autre lisait Le Gros Câlin, qui n'a rigoureusement rien à voir. Et hop, les deux livres s'échangeaient. Voilà, ça m'a servi à ça.
Et
le truchement de la lecture à voix haute.
Les enfants, Daniel Pénac, comme vous-même d'ailleurs, n'ont jamais éprouvé de gêne, de timidité à lire à voix haute, parce que tout le monde n'est pas comédien. Moi, je sais que quand j'ai annoncé que j'allais lire quelques passages de romans à voix haute ce matin, on m'a dit, mais t'es pas comédienne, donc
mais c'est toujours comme ça que ça commence. On vous dit, vous ne pouvez pas faire ceci parce que vous n'êtes pas cela. On s'en fout.
Bon, bah alors je vais continuer.
Allez-y.
Mais vous me dites, je ne sais pas s'il y a une façon de bien lire à voix haute. Là, je m'adresse à l'ancien professeur que vous êtes, Daniel Pénac.
Je n'ai pas l'impression que vous lisiez mal. J'étais passionné par ce que vous avez lu.
On va essayer avec un autre alors. L'ami prodigieuse, vous savez, l'ami prodigieuse, le dernier tome, le tome 4 d'Elena Ferrante, vient tout juste de sortir. Je crois même que c'était cette semaine. Alors, je ne vais pas lire le début du tome 4, mais le début du tome 1 pour tous les auditeurs qui n'auraient pas lu le 2, le 3 pour l'instant. Donc, l'amie prodigieuse, tome 1, le début. Ce matin, Reynaud m'a téléphoné. J'ai cru qu'il voulait encore de l'argent et je me suis préparée à le lui refuser. Mais le motif de son appel était tout autre. Sa mère avait disparu. Depuis combien de temps ? 15 jours. Et c'est maintenant que tu m'appelles ? Mon ton a dû lui paraître hostile. Pourtant, je n'étais ni en colère ni indignée, juste un tantinet sarcastique. Il a tenté de répliquer, mais n'a pu émettre qu'une réponse confuse, gênée, moitié en dialecte et moitié en italien. Il s'était mis dans la tête, m'a-t-il expliqué, que sa mère était en vadrouille, quelque part, dans Naples, comme d'habitude. Même la nuit ? Ah, tu sais comment elle est. D'accord, mais 15 jours d'absence, tu trouves ça normal ? Ben oui, ça fait longtemps que tu ne l'as pas vue, c'est encore pire. Elle n'a jamais sommeil, elle va et vient, fait tout ce qui lui passe par la tête. Il avait quand même fini par s'inquiéter. Il avait interrogé tout le monde, fait le tour des hôpitaux et s'était même adressé à la police. Rien. Sa mère n'était nulle part. Quel bon fils. Un gros bonhomme sur la quarantaine qui n'avait jamais travaillé de sa vie et n'avait fait que trafiquer et gaspiller. J'ai imaginé avec quelle diligence il avait dû faire ses recherches. Aucune. Il n'avait pas de cervelle et rien ne lui tenait à cœur hormis sa propre personne. « Elle serait pas chez toi » m'a-t-il soudain demandé. « Sa mère, ici, à Turin. » Il connaissait bien la situation, il ne parlait que pour parler. Lui, oui, c'était un voyageur, il était venu chez moi une dizaine de fois, sans y être invité d'ailleurs. Sa mère, qu'au contraire j'avais accueillie avec plaisir, n'était jamais sortie de Naples de toute sa vie. Je lui ai répondu « Non, elle n'est pas chez moi. »« T'es sûr ? Bruno, s'il te plaît, je te dis qu'elle n'est pas là. » »« Mais alors elle est où ?» Il s'est mis à pleurer. Je l'ai laissé mettre en scène son désespoir avec des sanglots qui commençaient par être fins avant de devenir réels. Quand il a terminé, je lui ai conseillé « S'il te plaît, comporte-toi comme elle voudrait, pour une fois. Ne la cherche pas. » « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu m'as entendu, c'est inutile. Apprends à vivre tout seul. Et c'est pas la peine de me chercher non plus. » Et j'ai raccroché.
Elle prétend ne pas savoir lire. À voix haute. Vous rendez compte.
Bon, Daniel Pénac, l'idée n'est pas celle-là. L'idée, c'était... Merci quand même du compliment au passage. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, à voix haute, on partage des livres qu'on a aimés. C'est le partage, la lecture à voix haute.
Le petit Reno, là, c'est en italien un mammone. Le mammone, en italien, c'est le garçon qui, à 40 ans, ne peut pas se séparer de sa maman.
C'est exactement ça.
Et cette... Évidemment, c'est absolument magnifique, cette série de bouquins.
Vous n'avez pas déjà lu le 4, quand
même. Raconte en gros, d'ailleurs, l'histoire d'une femme qui se construit, qui construit sa personnalité par imitation d'une autre. C'est absolument magnifique. Non, j'ai pas lu le 4.
Le livre commence dans le Naples des années 50, oui. Et c'est une histoire d'amitié entre deux enfants, puis deux adolescentes, puis oui, deux jeunes femmes. Effectivement, l'une cherche à imiter l'autre toute sa vie. C'est un livre c'est même une série maintenant.
Et l'autre qui est entièrement dans le refus et le combat. Oui, c'est formidable.
Répondez-moi sur le partage. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est un partage, la lecture à voix haute ?
Oui, oui, absolument. Ça n'a que des qualités, la lecture à voix haute. D'abord, c'est la rencontre de trois intelligences. L'intelligence du texte, l'intelligence du lecteur, quand il sait se tenir à niveau du texte, extraire tout le sens du texte sans trop la ramener lui-même, et l'intelligence de l'auditeur qui sait, lui, faire le départ entre l'intelligence du texte et l'intelligence du lecteur. C'est une fête, c'est c'est une communion très réussie, un moment de partage de pain complet, si vous voulez, dont personnellement, en plus de ça, je ne me lasse pas comme auditeur.
Daniel Pénac, cette nuit de la lecture, je disais qu'elle allait se passer dans un certain nombre de lieux, en particulier des lieux dédiés aux livres,
bien sûr.
Comme le sont les bibliothèques. Il s'est passé une petite polémique récemment, là, puisque vous avez, vous, répondu à l'appel d'un collectif qui s'appelle le collectif Scheherazade, qui regroupe notamment des auteurs, des bibliothécaires et d'autres gens du livre, on va dire, contre la volonté d'une société civile des éditeurs de langue française, de la société même civile des éditeurs de langue française, d'imposer une redevance à la lecture publique. Alors, il y a même une pétition qui a circulé sur change.org. On a appris quand même, je tiens à le dire, jeudi, que la SCELF donc suspendait cette perception,
oui.
mais ne la supprimait pas, elle la suspend pour 5 ans.
Bon, voilà,
les questions de cette redevance, oui. Sur la lecture publique.
Cette SELF est un self-service éditorial. Les éditeurs tentent de faire payer une des prestations qui est la lecture à voix haute dans les bibliothèques, ce contre quoi je me gendarme absolument. Je suis absolument contre.
Ça doit rester gratuit.
Mais c'est bien entendu. Et c'est d'ailleurs une vieille bagarre. Dans les années 2000, les dernières années du franc, on a déjà été empoisonné par cette polémique du prépayant. Nous étions quelques auteurs à refuser absolument le prépayant en bibliothèque, puisque l'inscription à la bibliothèque représente déjà un coût, les impôts locaux représentent un coût, et je me souviens qu'ils voulaient, ces éditeurs, faire payer chaque prêt 5 francs, ce qui n'était pas rien, 5 francs. Nous sommes quelques-uns à être montés au créneau et avoir réduit les prétentions éditoriales.
C'est peut-être aussi contraire à ce que veut la ministre de la Culture, qui a quand même rappelé,
oui,
à l'occasion
de
la conférence de presse de la nuit de la lecture, où vous étiez aussi d'ailleurs, Daniel Pénac, en tant que parrain, que la lecture est le premier vecteur de la démocratisation, de l'accès à la culture, et c'est une priorité.
Oui,
chez
non, mais enfin, il suffit de réfléchir 2 secondes pour voir qu'il est absolument idiot et presque criminel d'imposer une taxe à ces lectures à voix haute quand on sait que n'importe quelle bibliothèque voit des gosses rentrer dans sa bibliothèque de province, de banlieue, et un des premiers actes qu'elle fait pour les amener à la lecture, c'est de leur lire immédiatement, rassembler dans une salle, lire un texte. S'il fallait payer tous ces actes, non, là on a été dans un projet. Bon, ils veulent gagner un petit peu plus de fric et ils ont échoué. Voilà, c'est pas dramatique. Quand je dis ils, sont les éditeurs en général, en l'occurrence. Ce qui est toujours très intéressant d'ailleurs, c'est que dans ces propositions, les éditeurs, qui parlent toujours évidemment au nom des auteurs, se gardent bien de dire quel pourcentage leur reviendra et quel pourcentage sera remis aux auteurs. Après, c'est annexe, hein, mais c'est important. À chaque fois, c'est le même procédé. Donc, refus absolu de payer quoi que ce soit quand on lit à voix haute un bouquin à un gosse ou à un adulte.
Voilà qui est dit et affirmé haut et fort, avec un point sur la table ou presque. On parlait des bibliothèques, c'est aussi, je le disais, la fête de la librairie, d'une certaine façon, la fête de la lecture. Et l'ouverture d'une librairie, c'est peut-être toujours une fête aussi, comme Abondi, en Seine-Saint-Denis, à quelques pas de la mairie, où, figurez-vous, s'est ouverte le 9 janvier la première librairie de la ville. Elle a pour nom les Deux Georges. Vous imaginez bien pourquoi, Daniel Pénac ?
Georges Sand et Georges Orwell. Orwell,
exactement. C'est une librairie tenue par deux jeunes femmes qui sont passionnées, Clara Da Silva et Audrey Neveu. Paul Moisson, pour les matins du samedi, s'est rendu sur place, ambiance festive à quelques heures de l'inauguration.
Bonjour, bienvenue.
Bonjour, je suis Audrey Neveu, je suis l'une des co-gérantes de la librairie Les Deux Georges, située à Bondy.
L'idée du projet, quelle était-elle ?
On aime bouquiner, on a envie de transmettre ça. C'est un plaisir qu'on a envie de partager, hein, tout simplement, en faisant venir des auteurs, en les faisant rencontrer des populations diverses et variées, en les faisant découvrir. Et puis en offrant la possibilité à des enfants d'avoir l'habitude de rencontrer des auteurs, d'avoir l'habitude d'entendre des textes lus et d'avoir l'habitude d'entrer dans une librairie sans se sentir jugé sur une forme de culture ou non et de prendre un bouquin, de s'installer dans un canapé et puis tranquillement quoi.
Bonjour, je suis Clara Da Silva, la deuxième Georges de la librairie Les Deux Georges. Le 93, pour nous, c'était une évidence parce qu'Audrey et moi, on y vit dans ce département. Pourquoi Bondy ? Parce que déjà, on n'avait plus de librairie, donc il y avait un territoire vierge où on pouvait s'installer. Et parce que Bondy a une vie culturelle qui est très intense déjà. Donc la librairie, elle est grande, elle est très lumineuse parce qu'on a 2 x 12 mètres de vitrine. Elle est atypique parce qu'on a pris des carreaux de ciment à l'ancienne. Pour le sol, on a chiné les tables, on a eu envie d'apporter un esprit un peu décalé pour inciter les gens à la curiosité et les motiver à pousser la porte de la librairie.
Après, notre projet, c'est vraiment que tout Bondy soit rentré au moins une fois dans cette librairie.
Est-ce que vous pourriez nous lire le passage d'un livre qui vous a touché, qui pourrait décrire votre librairie ?
C'est Amandine D qui a écrit La femme brouillon, qui est la lauréate de la deuxième édition du prix hors concours. Le meilleur moyen d'éradiquer la mère parfaite, c'est de glandouiller. Le terme est important car il n'appelle à aucune espèce de réalisation. Il est l'ennemi du mot concilier. Car si faire vœu d'inutilité est déjà courageux dans notre société, pour une mère, c'est la subversion absolue. Le jour où je refuse d'accompagner père et bébé à un déjeuner dominical pour traîner en pyjama toute la journée, je sens que je tiens quelque chose.
Voilà, ce reportage à Bondy, signé Paul Moisson. Nous sommes avec vous, Daniel Pénac, jusqu'à 7h40. Vous êtes le parrain de cette deuxième édition de la Nuit de la Lecture. Vous prenez à cœur cette fonction, compte tenu de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent ?
Oui, d'autant plus qu'elle se déroule sous les auspices de la lecture à voix haute. Alors, c'est vraiment ce qui m'a fait accepter. À partir du moment où j'y suis corvéable à merci, bien sûr. Alors, fait de moi ce qu'on veut.
Puisque vous êtes corvéable à merci, je vais vous demander de suspendre votre voix pendant 2 minutes pour écouter les titres de l'actualité par Camille Magnard. Il est 7h30 sur France Culture. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent. Camille Magnard pour les titres, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Des États-Unis plongés dans la paralysie budgétaire pour le premier anniversaire de la présidence Trump. Les négociations de la nuit dernière au Sénat américain n'ont pas permis d'éviter le shutdown des accords sur le budget du gouvernement fédéral. Et depuis minuit, donc, des administrations contraintes au chômage technique. Simple coïncidence ou symbole des difficultés que rencontre le pays. Un an, donc, après l'investiture Trump, nous reviendrons sur cet anniversaire dans notre journal de 8h. En France, 4 jours de bras de fer et 3 agressions de surveillants plus tard. Le ministère de la Justice a proposé cette nuit un projet d'accord au syndicat pénitentiaire. Ils réclamaient plus de postes et une sécurité renforcée. Ils ne lèvent pas leur préavis de grève pour ce week-end et lundi, mais vont soumettre à leur base les propositions du gouvernement. Combien de plans sociaux prévus vont-ils se transformer en rupture conventionnelle collective ? Le dispositif créé par les ordonnances Pénicaud simplifie, on le sait, les licenciements multiples. Après PSA, la société général voudrait l'utiliser pour supprimer 900 postes. L'Égypte, point de départ d'une tournée sensible au Proche-Orient pour le vice-président américain Mike Pence. Il s'agit de déminer les tensions dans le monde arabe après la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par les États-Unis. L'Égypte se prépare aussi à une élection présidentielle fin mars et sans surprise, sans grand suspense non plus, le président actuel Al-Sisi a confirmé sa candidature hier. Enfin, des délégations des deux Corées autour d'une même table. Ça va se passer ce matin au siège du Comité international olympique, rencontre historique donc à Lausanne en Suisse pour préciser les conditions d'une éventuelle participation de sportifs nord-coréens aux JO d'hiver qui vont se dérouler le mois prochain à Pyeongchang, Corée du Sud. Pyongyang en fait la condition pour garantir qu'elle ne viendra pas troubler ces JO avec de nouveaux tirs de missiles.
Eh bien, tout à l'heure, à 8h pour le développement de tous ces titres, Camille Magnard, à suivre dans la prochaine demi-heure. La suite de notre entretien avec Daniel Pénac et à 7h40, la Fabrique médiatique sur The Guardian avec Sylvain Bourmeau et John Henley.
Comment qualifier le premier bilan de la présidence Trump? Un an après son investiture, le président des États-Unis s'est distingué par ses outrances verbales et ses provocations qui ne font ni une politique claire, encore moins une doctrine. Ce dimanche, à partir de 18h15, 2h30 de discussions et de débats sur l'état de l'Amérique de Donald Trump, son rapport au reste du monde dans Dimanche et après, et dans Soft Power, l'Amérique anti-Trump, dans les médias, dans les idées et sur les réseaux.
L'Amérique de Trump, un an après? Julie Gacon, Frédéric Martel, soirée spéciale ce dimanche de 18h15 à 20h30 sur France Culture. Plus d'infos, franceculture.fr.
L'écrivain Daniel Pénac est avec nous ce matin. Il est le parrain de la deuxième édition de la Nuit de la Lecture qui aura lieu toute la journée, toute la nuit, dans toute la France et même dans les métropoles outre et les territoires outre-mer. La nuit spéciale Nuit de la Lecture, ce sera aussi sur France Culture par Philippe Garbi avec Éric Orsenna qui est chargé d'une mission ambassadeur de la lecture par le ministère de la Culture et Timothée de Fombelle toute la nuit de minuit et demi. À 6h54, vous pourrez entendre tout un tas de lectures à voix haute. Et justement, de la lecture à voix haute, il en était question avec vous, Daniel Pénac, il y a quelques minutes encore. Vous êtes venu, vous aussi, avec pas mal de livres sous les yeux pour nous lire quelques extraits. Peut-être on aimerait vous entendre à nouveau lire quelque chose. Qu'est-ce que vous choisissez?
Alors, prenons dans le livre de l'intranquillité de Pessoa ce petit passage. Si je ne me trompe pas, voilà. Alors, Pessoa, c'est un écrivain de la sensation. Dans le livre de l'intranquillité, nous avons affaire à plusieurs narrateurs, dont l'un en particulier ne rend compte de son passage au monde que par le biais des sensations qu'il y éprouve. Et là, il y a un texte que j'aime beaucoup qui est le suivant. Il est parti. Celui qu'on appelle le garçon de bureau est parti aujourd'hui, définitivement, ce qu'on m'a dit, pour son village natal. Toutes choses qui ont été nôtres, même par le seul jeu de la vie en commun ou de notre vision propre, parce qu'elles ont été nôtres, sont devenues un peu de nous. Ce qui est parti aujourd'hui pour quelques villages de Galice dont j'ignore même le nom, n'a pas été pour moi un simple garçon de bureau. Il a été une partie vitale, parce que visuelle et humaine, de la substance de ma vie. J'ai été diminué aujourd'hui. Je ne suis plus tout à fait le même. Le garçon de bureau est parti.
Vous avez lu le livre de l'intranquillité de Pessoa dans une traduction qui est ancienne, Daniel Pénac.
Qui est une traduction ancienne que j'adore, absolument. C'est une traduction de Françoise Lay, que je ne connais pas personnellement, et qui me semble la meilleure traductrice du monde. Il y a un rythme, une musique, et elle rend bien cette espèce d'écriture d'ombre que l'écriture de Pessoa. C'est une magnifique traduction. Mais maintenant, il y a une nouvelle édition
que vous avez également apportée.
Vient de sortir, que j'ai également apportée, oui. Chez Christian Bourgois. Toujours. Que je n'ai pas encore lu et qui est cette fois-ci traduite par Marie-Hélène Pionic.
Donc, et le titre a changé.
Et le titre
ce n'est
a
plus
changé.
Le livre de l'intranquillité.
Alors, le livre de l'intranquillité que j'adorais, parce qu'on y avait inventé ce beau néologisme de l'intranquillité, devient Les livres de l'inquiétude. En italien d'ailleurs, c'est le livre de l'inquietudine aussi. Les livres de l'inquiétude, tout simplement parce qu'il y a plusieurs narrateurs à l'intérieur de ce livre et que la nouvelle édition classe les récits du livre en fonction des divers pessoas qui s'y sont exprimés. Voilà, ça fait deux. Évidemment, moi j'étais follement amoureux de la première version, mais je vais lire la deuxième avec curiosité.
Est-ce que je peux vous proposer de passer de l'autre côté de l'Europe, dans une contrée qu'on appelait au XXe siècle l'URSS, par exemple?
Allons-y.
En vous lisant le début d'un livre qui est un livre total, qui parle du totalitarisme ou des totalitarismes du XXe siècle. Un livre qui s'intitule « Vie et destin », signé de Vassili Grossman, dont il sera question la semaine prochaine. Un beau documentaire sera diffusé mercredi soir sur l'histoire de ce livre et l'histoire de son auteur. Le brouillard recouvrait la terre. Les phares de la voiture se reflétaient dans les lignes à haute tension qui s'étiraient le long de la route. Il n'avait pas plu, mais à l'aube, l'humidité s'abattit sur la terre et les feux dessinaient des taches rougeâtres sur l'asphalte mouillé. On sentait la respiration du camp à de nombreux kilomètres. Les fils électriques, les routes, les voies de chemin de fer se dirigeaient tous vers lui, toujours plus denses. C'était un espace rempli de lignes droites, un espace de rectangles et de parallélogrammes qui fondaient la terre, le ciel automnal, le brouillard. Des sirènes lointaines poussèrent un hurlement doux et plaintif. La route venait se serrer contre la voie et la colonne de camions chargés de sacs de ciment roula un certain temps à la hauteur du train de marchandises interminable. Les chauffeurs en uniforme ne regardaient pas les wagons, les taches pâles des visages. C'est le tout début de Vie et destin de Vassili Grossman.
Et c'est un des plus beaux romans que j'ai lus de ma vie alors, pour le coup. Avec ce destin tragique de Grossman, qui était un écrivain dans la ligne, hein, qui était une des plumes les plus célèbres du parti, qui s'est porté volontaire pour aller à la bataille de Stalingrad, qu'il a décrite dans Vie et destin, et décrivant la bataille de Stalingrad, il s'est mis à décrire aussi les monstruosités du totalitarisme soviétique. Et là, s'est arrêté sa carrière, car il a été lu et il en est mort. Il a été lu par la censure et il en est mort. Par bonheur, il y avait deux exemplaires clandestins de son manuscrit qu'on a réussi à faire passer en Europe. Et c'est là que ce roman absolument prodigieux a été édité à l'âge d'homme, j'imagine, la première fois.
Et je vous invite donc à regarder ce documentaire mercredi soir sur l'histoire de ce livre et l'histoire de son auteur. On avait un certain nombre de livres devant nous, hein, vous et moi, en particulier les œuvres de Georges Perrault, auxquelles vous tenez beaucoup, Daniel Pénac.
Réédition complète de l'œuvre de Perrault. Je vous invite à vous précipiter dans toutes les librairies et à lire ce Perrault qui a été mon mentor. J'ai adoré Perrault, mais absolument, qui est un écrivain de d'éclat, de petits passages, de moments de lucidité extrême toute sa vie, avec une immense modestie et une intelligence. Alors voilà un donneur de lecture. Il faisait à ses étudiants, à la fin il était lecteur comme ça, pour gagner un peu d'argent, et il faisait des cours d'ignorance à ses étudiants. Alors il arrivait avec la sacoche de sa moto, vidait la sacoche sur son bureau. De cette sacoche tombait quantité de romans qu'il lisait à voix haute à ses étudiants, lesquels ne s'en sont jamais remis.
On avait aussi sous les yeux un nu de Jean-Philippe Toussaint, un premier roman qui vient tout juste de sortir aux éditions Sabine Vespizère, Clarence Boulet, Tristan, que notre réalisatrice a beaucoup aimé, Milena Hellig. On avait Le temps où nous chantions, Richard Powers. On mettra tous ces livres, bien sûr, sur notre site internet. Et puis, je voudrais juste annoncer lundi, donc après-demain, on a encore deux jours pour attendre, le livre d'Aaron Appelfeld qui nous a quittés il y a quelques jours. Livre posthume, donc, Des jours d'une stupéfiante clarté, qui va paraître dans deux jours aux éditions de l'Olivier. Quelques-uns, c'est une sélection toute restreinte, que vous et moi avions choisi aujourd'hui, Daniel Pénac. Merci beaucoup d'être venu. On se quitte quand même en musique, puisque la lecture à voix haute, c'est une lecture qui rappelle la musique. Vous aimez beaucoup la chanson française. On avait pensé que vous choisiriez un Thomas Fersen, mais non, tiens, vous êtes remonté un peu plus loin dans le temps, avec Bobby Lapointe.
Oui, parce qu'on jouait avec les mots.
Sentimental Bourreau.
Il était une fois un tout petit bourreau, pas plus grand que trois noix et pas beaucoup plus gros. Des hautes et basses œuvres étaient exécuteurs, et pour les basses œuvres était à la hauteur. N'avait jamais de trêve et jamais de repos, car en place de grève, il faisait son boulot. Pourtant couper des têtes, disait-il, ça m'embête, c'est un truc idiot, ça salit mon bio. Pour nourrir ma vieille mère, je saigne Paul ou Pierre, d'un geste un peu brutal, mais sans penser à mal, sentimental bourreau, aïe 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 aïe.
Et on aurait pu chanter dans le studio. Merci beaucoup Daniel Pénac d'être venu ce matin.